gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir amis auditeurs, amis auditrices, et bienvenue, ou en tout cas tu es toujours à l'écoute de Radio Canu, et à partir de 22h, eh bien c'est l'heure de la causerie, donc ce soir dans les studios, Fab.
Bonsoir.
Et moi-même.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Oui, équipe format réduit ce soir. Eh bien, avant de commencer, comme à notre habitude, on va vous rappeler aussi un peu comme à notre habitude, comment nous joindre si vous le souhaitez. Eh bien, vous pouvez nous envoyer des mails à la causerie, tout attaché et minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. Vous pouvez évidemment retrouver les causeries, sur le blog de l'émission, qui est à l'adresse blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/la cause.
N'importe quoi.
C'est parce qu'il touche après les boutons de la technique et moi ça me perturbe. C'est donc blogs.radiocanu.org/la causerie. Voilà. Et on a aussi un espace sur un réseau socio-commercial où vous ne trouvez évidemment que les podcasts de chaque semaine. Voilà. Que dire? Eh bien, ce soir, une partie dans les studios et une autre partie toujours dans les studios, mais qui sera aussi
téléphonique.
Téléphonique, c'est tout à fait ça. On aura quelqu'un pour causer dans la deuxième partie de l'émission. En tout cas, on va tout de suite commencer avec Fab. Tu voulais nous causer d'une allocution, je crois, un petit peu présidentielle.
Oui, en fait, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a déclaré ou plutôt annoncé Monsieur Emmanuel Macron, qui est président de la République française, il paraît. En fait, je vais en parler, mais c'est pas pour en dire du bien ou du mal. Hein, c'est juste quand même pour qu'on fasse un petit bilan. On s'attendait pas à grand chose et on s'attendait pas à ce qu'il change de politique, donc on va pas jouer les gens surpris. Hein, comme je l'ai vu beaucoup, des gens disent quoi, il change pas de politique? Non, il n'avait pas l'intention de le faire. Moi, voilà. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va se poser des questions, parce que ça aurait aucun intérêt. Non, en fait, on va s'en poser plutôt sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces annonces, parce que je trouve quand même qu'il y a plein de trucs qui ont été dits et j'ai l'impression que les gens rebondissent pas vraiment dessus, et surtout on se rend compte que les opposants à Emmanuel Macron, alors moi ceux que j'appelle opposants, on va être très clair, hein, c'est pas la droite, hein, parce que pour moi Emmanuel Macron fait partie de leur courant, il est au centre droit. C'est pas la gauche type socialiste, parce qu'Emmanuel Macron fait partie de leur courant, il est social-démocrate libéral, donc en fait c'est un peu un grand centre, hein, Emmanuel Macron, il fait une sorte de grand écart. Non, c'est plutôt en fait les oppositions, je dirais, de gauche ou libertaires, qui j'ai l'impression sont un peu atones et se retrouvent un petit peu coincés face à quelqu'un qui, pour une fois, contrairement aux anciens présidents de la République qu'on a pu avoir, il tient la cape et puis en plus il nous emmerde. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui, mais il y a de ça, hein, il y a vraiment de ça.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y va et puis voilà, il dit bon, moi ce sera comme ça, et puis si ça vous va pas, de toute façon j'ai été élu, donc c'est comme ça. Et ça, c'est assez nouveau, mais c'est pas tellement nouveau quand on regarde à l'échelle internationale, parce que ce qui, je l'avais déjà dit, hein, ce qui semble échapper à beaucoup de gens, c'est qu'Emmanuel Macron, il a 42 ans, il fait partie de la nouvelle comment on appelle ça, pas direction du tout, la nouvelle génération de dirigeants mondiaux, hein, des gens qui sont sortis, qui ont la quarantaine, qui n'ont pas connu la période de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ce qui peut être un marqueur idéologique assez fort, qui n'ont pas forcément connu la guerre froide non plus très longtemps, donc c'est aussi un marqueur idéologique assez fort. Et donc c'est des gens qui souvent sont très ancrés dans le marché, c'est-à-dire la notion, c'est la fin de l'histoire, le capitalisme il a gagné, donc maintenant faut qu'on se débrouille pour le rendre un petit peu humain. En gros, c'est un peu le discours qu'il a, hein, quand on regarde bien. Il nous fait souvent des sorties avec un côté libéralo-social, où il rajoute une petite touche de social derrière, comme ça. Mais on se rend bien compte que il est un petit peu gestionnaire de la grande foire-fouille du capitalisme, hein, et que finalement, il est là pour que les rouages du marché se passent bien. Et c'était tout le sens de son allocution. Si vous avez écouté, il n'y a aucun moment il a dit qu'il allait entraver le marché, s'en prendre aux multinationales.
C'est un capitaliste convaincu.
Oui, c'est ça.
C'est pas...
et ça, c'est assez nouveau parce qu'il fait partie de cette génération de dirigeants qui l'assument. C'est-à-dire que ils le font pas à moitié, ils le font pleinement.
Oui, c'est pas faux parce que finalement, Hollande s'était présenté comme l'ennemi de la finance,
c'est ça.
Je sais pas quoi. Et, alors que lui, mais qui avait une politique finalement libérale
c'était
aussi.
La même que celle de Macron à très peu de choses.
Alors que finalement, effectivement, Macron, il arrive, il dit moi je suis libéral et en fait voilà.
Et c'est ça qui est un peu nouveau. Et ouais. Donc c'est on est un peu coincé parce que pour répondre à ces personnes-là, on a du mal parce que d'abord on se rend compte d'une chose, c'est que qu'on le veuille ou non, par exemple Emmanuel Macron, il emploie des termes aujourd'hui dans ses allocutions qui sont des termes étonnants, mais qui reprennent un petit peu les courants de pensée et philosophiques mondiaux actuels. Donc par exemple, il va parler d'un patriotisme inclusif. Et là, l'inclusivité, on sait que ça vient quand même de l'alt-left américaine au départ. C'est quelque chose qui vient plutôt de la gauche de gauche américaine. Donc, et on voit que le capitalisme, à travers Emmanuel Macron, alors tout en sûrement le dévoyant, hein, y a pas de problème, mais récupère cette façon de parler parce qu'ils se rendent compte que c'est dans l'air du temps, que ça parle aux jeunes, que sur les réseaux sociaux ça passe bien. Et donc on voit qu'on est face à quelqu'un qui maîtrise son époque et qui, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, n'est pas cette espèce de gars paumé qui serait amoureux d'une vieille et du coup il serait vieux comme trop de gens le caricaturent. Et ça d'ailleurs, je trouve ça d'ailleurs aussi odieux de caricaturer quelqu'un sur l'âge de sa compagne. Ou je crois
que surtout que c'est pas très politique comme argument, par contre c'est très politique comme manière de faire.
Et voilà, exactement. On est d'accord. Et donc du coup, en fait, c'est intéressant de voir que justement on a pour une fois, enfin on a face à nous un dirigeant, et d'ailleurs c'est pour ça, il y a plein de gens, d'analystes en Europe qui disent c'est pour ça qu'il s'entend assez mal avec Angela Merkel. C'est pas qu'il soit tellement différent sur la politique à mener, parce que finalement Angela Merkel c'est une libérale de centre droit, plutôt pro famille, tout ça, bon, parce qu'elle vient quand même d'un parti chrétien, mais ils ont pas tellement des écarts aussi importants qu'on pourrait l'imaginer. Mais par contre ils ont pas la même culture politique, c'est-à-dire qu'Angela Merkel elle est issue, elle a connu la Seconde Guerre mondiale, à la fin elle est issue du bloc de l'Est, elle a connu la guerre froide, donc elle a pas la même culture politique qu'un Emmanuel Macron qui lui n'a rien connu de tout ça. Et on se rend compte que ça crée des difficultés à lui répondre. Alors on peut répondre de façon basique, hein, en disant oui, grève générale, et puis voilà, ouais, ok, sauf que le problème c'est que face à quelqu'un comme ça, ça suffit plus. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on veut récupérer les moyens de production. Il faut expliquer en quoi, en fait, on veut contrer le capitalisme. Il faut expliquer tout ça, parce que si on s'en tient à des slogans, en fait, on est en face de quelqu'un qui fait que des slogans. Moi, je l'ai écouté, par exemple, il vous dit, j'ai résolu le problème des retraites, parce que toutes les retraites qui seront inférieures à 2000 euros, je les réindexe sur l'inflation. Voilà, vous êtes content, c'est ce que vous demandiez, on s'arrête là. Non, c'est pas ce qui était demandé, mais ça paraît répondre à ce qui était demandé. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est que, comme il le dit avec énormément de conviction, qui donne l'impression en fait d'effectivement avoir compris et qu'il l'assène en fait finalement, on a du mal à lui dire, en fait non, c'est pas ça qu'on demandait, puis on n'est pas du tout là-dessus. Et pourquoi vous me parlez de réindexation? C'est pas ça, on voulait une augmentation des retraites. C'est pas une réindexation, la réindexation ça vient après. Il faut d'abord qu'on augmente les retraites. Parce que finalement, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il va rendre aux retraités ce qu'il leur a pris.
Oui, c'est ça.
Mais surtout, il va pas leur rendre ce qu'il leur a pris entre-temps. C'est-à-dire que ce qu'ils ont perdu là depuis un an et demi, ils l'ont perdu, c'est fini. Donc au final, il n'y a pas de retour d'un mieux. C'est juste, on revient à quelque chose. Mais c'est asséné avec une façon de faire qui est très complexe à contrer. Et si vous arrivez en face et que vous n'avez pas un argumentaire un peu solide, bah très vite, en fait, il vous balaye avec cette espèce de sentiment de réalité, qui est un peu le truc qui balance à toutes les sauces. Alors, je vais revenir quand même sur quelques annonces, parce qu'elles sont intéressantes. Quand, par exemple, Emmanuel Macron nous dit « on va pas fermer d'école », bon, il est bien drôle parce qu'il n'y avait pas d'école qui ferme jusqu'à maintenant. C'est des classes qui ferment. Donc en fait, quand il annonce ça, c'est un mensonge. C'est, il vous dit, je ne vais pas fermer d'école. Bah oui, il n'y a pas d'école. L'État n'a pas demandé à fermer des écoles. Il ferme des classes et quand vous n'avez plus assez de classes, vous fermez l'école. Donc en fait, c'est une entourloupe parce que dans la même phrase, il vous explique, sauf si les maires nous disent, on doit la fermer. Mais pourquoi ? Parce que s'il ne reste qu'une seule classe, le maire, il ne peut pas maintenir un établissement ouvert. Donc il va forcément demander à ce que l'école ferme. Donc en fait, ça ne change rien, mais ça donne l'impression d'avoir changé. C'est un bon exemple, je trouve, de cette rhétorique assez foireuse. Il y en a un autre aussi qui, moi, marqué, qui m'a vraiment même presque choqué, parce que je me suis dit, c'est passé un peu comme une lettre à la poste, c'est quand il vous dit, on va mettre un petit peu de proportionnel. Alors il dit, parce que c'est mieux, c'est plus démocratique, blablabla. Pourquoi pas, hein, moi je rien, j'ai ni pour ni contre, comme je suis dans ces cas-là. Mais par contre, il vous dit ça, mais il vous dit pas ce qu'il va faire. Il vous dit juste, on va remettre un peu de proportionnel. Ça veut rien dire. Et ça a été traduit souvent dans les médias par le retour de la proportionnelle. Bah oui, mais enfin, si c'est sur 10% des députés, ça change rien. Et puis surtout, est-ce que ça va changer fondamentalement l'idée que vous continuerez à être dirigé par une poignée de gens que vous mettez dans un hémicycle et à qui vous donnez tout pouvoir ? Ben non. Leur mode d'élection, finalement, ne change pas la logique. Ça restera des gens qui seront élus pour vous diriger, bien payés, dans deux palais, le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon, mais sur le papier, en fait, quand il annonce ça, on vous dit « Ah, ça, c'est génial ». Ben, ça n'a rien de génial. C'est juste un mode électif. Ça change rien fondamentalement. Et surtout, comme on ne sait pas à quel niveau il va la mettre, bah, ça change même rien du tout.
Ouais, mais finalement, enfin, c'est peut-être aussi là où ça nous renvoie, même nous, à nos propres, peut-être à la faiblesse de nos arguments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, en fait, à la place.
Exactement.
Et qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand il fait ça,
il sait qu'il y a
fait,
pas
d'une certaine manière, il renvoie la balle à l'autre en disant
bah, et toi alors,
ouais,
tu
en
fais
fait,
quoi maintenant,
c'est quoi ta réponse à ça? Et ce qui fait que je pense qu'il est très fort dans les effets d'annonce et dans le fait de couper l'herbe sous les pieds des gens.
Mais c'est cette nouvelle, vraiment, ces nouveaux dirigeants, ces quarantenaires qui émergent un peu partout, hein. Vous en avez un qui vient d'être élu en Ukraine, hein. Moi ça m'a passionné, j'ai suivi ça parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Comment un comique peut se retrouver à devenir président de la République en Ukraine? Bah, tout simplement parce que c'est le roi des punchlines, c'est-à-dire que comme on dit, c'est le gars, il a toujours réponse à tout, il balance une bonne petite phrase et il donne vraiment l'impression de croire en ce qu'il dit, et bah du coup, bah, ça va, ça suffit.
Alors que le gars, il connaît pas grand-chose. Hein. J'étais gentil en disant pas grand-chose.
Ah non, mais il connaît que dalle, hein. Il suffit de voir ses interviews, on comprend qu'il ne sait même pas de quoi retourne en fait son poste, c'est-à-dire que il va se retrouver un des postes les plus importants aujourd'hui dans la stabilité de la région. Faut quand même pas oublier que la Russie et l'Ukraine sont officiellement en guerre, la Russie a pris la Crimée quand même, hein, donc ils sont officiellement en guerre, et ils élisent un président qui ne comprend rien, mais qui donne l'impression de comprendre. Vous voyez, c'est ça le truc.
Mais ce qui finalement le rapproche d'un autre président, enfin, alors on est parti sur un autre, tu me diras, on n'est plus sur Macron mais que finalement ça ressemble aussi à du Trump, en fait, quoi.
Ouais.
Qui finalement est beaucoup dans l'effet d'annonce, beaucoup dans les grands mots.
Malgré son âge, mais il fait partie de
voilà,
ces gens.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ces gens sont culture réelle politique, mais vraiment de la culture de la punchline, quoi.
Et de l'entreprise.
Voilà. Et de l'entreprise, évidemment.
En tout cas,
parce que ce sont des grands capitalistes, hein, faut pas le nier. Comme Salvini en Italie, comme ce sont des gens qui, en fait, même s'ils sont dans un courant d'être, en fait, une façon d'être, ont une vraie idéologie politique derrière. Mmh. Et c'est celle du marché, c'est celle de mettre en place un capitalisme toujours plus triomphant, c'est le fait d'ouvrir la porte aux multinationales pour en faire l'alpha et l'oméga de nos vies. Mmh. Et en fait, ces personnes-là sont là pour ça. Mais attention, c'est pas un complot, c'est leur idée politique.
Oui.
Politiquement, en fait, eux, ils pensent que bah, ce serait mieux si c'était tout géré par les multinationales. Et ils font tout pour que ça arrive. Voilà, c'est un peu leur point de vue. Donc voilà, et avant de faire une petite coupure musicale, je vais juste quand même revenir sur une annonce et après je vais développer derrière. Mesdames, messieurs, juste quand même pour votre information, l'âge de la retraite ne va pas bouger, d'après ce qui a été annoncé. Par contre, vous allez travailler beaucoup plus longtemps. Je fais une petite pause musicale, je vous explique pourquoi après.
Quel teaser incroyable. Let it go, let it hope, coming on dancing. retour dans la causerie sur Radio Canu. Et on vient donc de s'écouter Remake de Jeanne Haddad. Et on vous est donc toujours à l'écoute de la causerie. On est en train de causer d'une allocution présidentielle.
Ouais, celle de jeudi dernier.
C'est ça.
Ouais, parce que quand même, le gars, il a quand même pris 2h30. Hein. Entre le moment où il parle et le moment où il répond aux questions, ça fait quand même beaucoup. Alors, il y a quand même, avant que je vous explique pourquoi vous avez travaillé plus longtemps, enfin sinon, je vais commencer par ça. Alors, ouais, j'ai vu beaucoup d'éditorialistes le lendemain dire, oui, c'est bien, parce que quand même, Macron, il a dit, il touchait pas l'âge de la retraite, et il nous enlevait pas un jour de congé en plus, un jour de férié en plus. Oui, alors, ça, c'est ce qu'on appelle se réjouir avec pas grand-chose, hein, je vais le dire très clairement. D'abord parce que, bon, bah, s'il avait enlevé un jour de férié en plus, j'espère que les gens auraient bougé, mais c'est pas là le problème. Le vrai problème, c'est surtout dire qu'on touche pas à l'âge de départ à la retraite, ça ne veut strictement rien dire. Comme je l'avais déjà expliqué dans une autre émission où j'avais parlé des retraites, je vous rappelle que les retraites, ça repose sur deux choses. La première, c'est l'âge à laquelle vous pouvez partir, mais surtout la deuxième, c'est le nombre d'années de cotisation nécessaire pour que vous puissiez partir. Et c'est là, en fait, qu'est l'entourloupe de Macron. Bah ouais, parce que vous pensez bien que lui, il le sait, ça. D'ailleurs, faut pas oublier qu'il était au Haut-Commissariat des retraites, hein, avant, quand il est sorti de l'ENA. C'est pas un truc qu'il connaît pas. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, Macron, il a dit, oui, moi, je touche pas à l'âge de la retraite, mais, bah, il y a toujours un mais. Hein. Mais dans le système qu'on va mettre en place, donc je vous avais expliqué, système par points, donc il fait que déjà, vous allez perdre beaucoup sur vos retraites et que bon, ça va être beaucoup plus compliqué, mais je vais pas revenir là-dessus. Non, c'est, il dit, bah, on va augmenter le nombre d'années nécessaires de cotisation. Voilà. Donc, dans un pays où, aujourd'hui, en moyenne, vous commencez à travailler à 23 ans et demi, voilà, si on vous augmente le nombre de cotisations nécessaires, vous irez quasi automatiquement jusqu'à 65, voire 66 ans pour pouvoir partir à la retraite. Pourquoi ? Parce qu'ils nous annoncent qu'il faudrait passer à 42, voire 43, voire 44 années de cotisation pleine pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein. Bah, si vous mettez 44 années plus 23 ans, vous obtenez, attention Jean-Yves,
pardon, je
pas... 44 plus 23
67.
Bravo.
Merci.
C'est pour vérifier que t'écoutais. Je plaisante. Et donc voilà, donc vous voyez, c'est ça l'entourloupe. C'est-à-dire que oui, on ne change pas l'idée que les gens qui vont commencer à travailler très jeunes, il y en aura de moins en moins, hein, faut être très clair, ouais, pourront partir à 62 ans, à condition d'avoir 44 ou 45 ans de cotisation retraite. Attention, je fais mon petit calcul. 44 ans d'année de cotisation retraite pour arriver à 62, pour partir à 62 ans, il faudrait commencer à travailler à
18
tout rond. Et c'est assez rare quand même. Et il faudrait ne pas avoir d'année de chômage.
Ouais,
c'est assez rare. Et il faudrait ne jamais tomber malade. C'est assez rare. Vous voyez, en fait, tout le système qui va être mis en place fait que oui, on va vous maintenir l'année de 62 ans, mais vous allez être obligé, contraint, de travailler plus longtemps. C'est ça l'idée qui est derrière, en fait. Voilà.
C'est ça.
Et donc quand on nous dit il est gentil, il nous a pas enlevé un jour férié, bah ben non, il a fait pire, il vient de vous rajouter 2-3 ans d'années de à bosser en plus, c'est pas cool.
Ouais, mais ça, là encore une fois, je trouve que ça montre vachement le décalage en fait entre la compréhension finalement de nos vies, quoi. Enfin, et là à la rigueur, je me compte même dedans, parce que enfin toutes ces histoires de cotises, de retraite, de machin par point, etc. finalement, enfin, je sais pas, et puis même moi je sais que quand je parle avec des gens qui ont un peu mon âge, voire moins même, tu vois, c'est, ils se disent souvent, de toute façon on s'en fout, on n'aura pas de retraite, quoi. Et que finalement...
Mais faut pas le souhaiter, hein.
Mais en fait finalement...
Je pense qu'il faut pas souhaiter ne pas en avoir, justement, il faut se battre pour en avoir une, et le plus tôt possible.
Et que finalement, mais c'est tout le truc en
parce
fait.
Ça fait partie de la réduction du temps de travail, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que la réduction du temps de travail, ça repose sur le fait de travailler moins par semaine, oui, mais aussi travailler moins longtemps dans sa vie. C'est-à-dire que la réduction du temps de travail, ça n'est pas que le temps que vous allez passer toutes les semaines, c'est aussi le temps que vous passez chez le taulier et en étant obligé d'y aller. Or là, aujourd'hui, l'attaque des capitalistes, elle est pas conne. Les capitalistes, ils ont compris une chose. En France, il y a les 35 heures, sauf qu'en moyenne, vous travaillez 38h80. C'est le temps moyen de travail des Français, c'est 38h80, tout compris. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire sauter les 35 heures. Mais aucun, parce que les gens pensent faire 35 heures. Ils font plus, mais ils pensent faire 35. Donc tout va bien, tout le monde est content, et donc du coup, ils n'ont aucun intérêt à toucher à ça. Et surtout, ils n'y toucheront pas. C'est un tabou, c'est un totem, comme on dit. Donc ils savent que ça, ils n'iront pas. Par contre, ils ont envie et besoin de vous obliger et de vous contraindre à travailler plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils allongent le nombre d'années où vous allez devoir aller travailler. Donc en fait, on est perdant sur les deux tableaux. On croit faire 35 heures, on en fait 38-80 en moyenne. On croit qu'on peut partir à 62 ans, on partira à 65, 66, 67 ans. Donc c'est ça, en fait, mettre l'entourloupe. Et tout le discours de Macron était là-dessus. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce ne soit pas clairement expliqué, en fait. Il y a quelques articles qui l'ont fait. Mais je trouve que chez les journalistes en général, c'est passé par, ah bah ouf, ils nous enlèvent pas un jour férié. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Il y a toujours un effet d'annonce, vous savez, avant on vous dit, à la piste sur laquelle on réfléchit, c'est celle-là. Comme ça, on vous donne un truc un peu moins pire et vous avez l'impression que c'est mieux.
Bah après, c'est toujours la complexité aussi de quel journaliste. Déjà, je suis pas persuadé que tous les journalistes saisissent absolument tout dans la logique.
La plupart sont nazes en social. Ça,
c'est ça, et qu'après, tu rajoutes encore ceux qui sont libéraux, ceux qui sont. Enfin...
Non, mais en plus, le social, c'est une branche très particulière. Le journalisme social, c'est-à-dire sur les. Il y en a très très peu en France, des gens qui se.
Ah si, moi j'en connais un. Il est député. Je plaisante.
T'es bête. Mais voyez ce que je veux dire, c'est que c'est une branche très particulière. Le journaliste social, c'est quelqu'un qui va s'intéresser aux lois qui concernent les salariés, tout ça. C'est assez rare, en fait.
Oui, mais et en plus, on retombe toujours quand même sur ce propos aussi de il faut de l'information objective. Sauf qu'en fait, une information objective est toujours subjective. En fait, l'information, tu as la lecture que tu vas en donner. Donc, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça, les journalistes, à vraiment avoir une position.
Il n'y a pas de position neutre. Moi, je crois pas à ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que.
On peut expliquer aux gens. Enfin, moi, je trouve que c'était quand même fou de ne pas expliquer aux gens ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron va prolonger automatiquement le nombre d'années de travail.
Mais je trouve que
c'était tellement évident.
Ouais, mais ce journalisme-là, il y en a très très peu en fait.
C'est bizarre. Enfin, mais c'est aussi le boulot des oppositions pour moi à le faire. Et c'est le boulot des gens qui veulent changer la société. Hein, donc, et c'est pas fait. Mais pourquoi c'est pas fait? Parce qu'on va pas se mentir. Il y a tout un courant aussi dans la gauche, je mets des guillemets à cette appellation-là, qui est pour qu'on travaille plus longtemps. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui croient en fait que sous prétexte qu'on est en meilleure santé, c'est logique qu'on travaille, parce qu'il y a la valeur travail, vous savez, c'est tellement important d'aller travailler. Mais non, en fait, moi je veux bien être en meilleure santé, faire autre chose que bosser. Hein.
Mais
ça m'embête pas du tout, moi. Enfin, je peux vous laisser ma place, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est à un moment donné, c'est en plaisantant, mais c'est que, parce qu'on n'a pas trop le choix, mais c'est en fait l'idée, il y a cette idée de la valeur travail, qui est aussi très portée par une partie de la gauche, les gauches travaillistes, en fait, au Royaume-Uni, ça s'appelle le parti travailliste, par exemple. Ouais. C'est faut pas oublier. C'est qu'il y a quand même cette idée-là derrière toute une partie de la gauche. Et donc, pour eux, c'est logique. Comme on vit plus longtemps, on va diminuer le temps de travail par semaine, mais c'est pas grave si on travaille plus longtemps. Bah si, c'est grave aussi. Ça fait partie de la diminution du temps de travail. Moi, je rappelle que personnellement, je suis pour l'abolition du salariat. Donc, le travail, j'ai envie qu'il disparaisse. Mais juste pour dire quand même que dans les annonces, on a un vrai problème par rapport à ça. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même qui est tombée, moi, je trouve, c'est qu'il a annoncé qu'il ne toucherait pas à la laïcité. Et ça, je trouve ça plutôt bien. C'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il ne toucherait pas la loi de 1905 et qu'il veut la sanctifier, donc a priori comme
sanctuariser.
Sanctuariser, bizarre, sanctifier. Je sais pas, je suis parti à Rome. sanctuariser, donc je pense que comme François Hollande, il a cette envie de rentrer la laïcité dans la Constitution.
Alors qu'il était plutôt du genre à parler souvent d'une laïcité ouverte, d'une laïcité...
Ouais, mais je pense qu'il a été refroidi, alors ça c'est mon analyse personnelle, par les exemples d'autres pays, et que du coup il se dit « j'ai pas envie d'avoir les mêmes emmerdes ». C'est très bête, hein, mais je pense que voilà. Et qu'il avait pas envie d'ouvrir cette brèche-là, parce qu'elle était compliquée, elle était complexe, puis il y a eu de la mobilisation quand même autour de la défense de la loi de 1905, donc du coup, là je pense qu'il a pas envie de mettre les doigts là-dedans. Alors juste quand même, pour finir mon intervention, je vais juste te dire, il faut arrêter de rêver. Croire qu'on va infléchir une politique à 20 000 dans les rues, non, ça marche pas. Croire qu'on va infléchir une politique en sortant uniquement le samedi, c'est-à-dire en n'impactant pas l'économie lourde des multinationales, ça ne marche pas. Amazon remercie les Gilets jaunes, je plaisante, mais il l'a quasiment dit comme ça, Jeff Bezos, hein, le patron d'Amazon, parce qu'en France, ils ont fait plus 39%, parce que les gens ne vont plus dans les magasins. Donc voilà, donc il est très content. Vous voyez, c'est pour dire, expliquer un petit peu le fait que c'est plus complexe simplement que de juste se montrer aujourd'hui. Il faut bloquer. Il va falloir bloquer, il va falloir faire vraiment du blocage, il va falloir vraiment être dans le blocage économique, parce que sans quoi, en fait, ils nous écouteront
jamais. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir s'en prendre au patronat, en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire à ceux qui majoritairement ont le pognon que nous produisons. Donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, oui, en fait, on ne pourra pas vouloir changer le monde sans s'attaquer clairement au patronat et à la gestion des lieux d'exploitation, dirons-nous.
Oui, c'est ça.
Donc, voilà. On fait quoi?
On va se faire une petite coupure musicale. On va essayer d'appeler notre invitée, hein, donc Sarah, qu'on va appeler en Algérie. Donc c'est pour ça que ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous nous excuserez si on a quelques problèmes techniques. Et puis dès qu'on revient, normalement, elle est avec nous à l'antenne. Alors, petite coupure musicale et c'est parti.
À l'écoute de Radio Canu et plus précisément de La Causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et ce soir, donc, nous avons parlé tout d'abord. Attends, nous avons d'abord parlé de Macron et puis bah là, nous essayons de joindre Sarah qui est en Algérie. Alors, on va faire un premier essai. Attention, c'est parti. Bonsoir, Sarah.
Bonsoir Fabien.
Oh. Non, c'est genre il est perdu. On est deux, c'est pas grave.
Je pensais que c'était pas bien, d'accord, bonsoir.
Bonsoir, donc tu nous entends bien, ça va pour toi ?
Oui, super.
Ok, eh ben super. Donc déjà, ben on te remercie déjà de prendre de ton temps si tardivement pour nous causer un petit peu à nous, pauvres petits Lyonnais que nous sommes. Donc voilà, donc juste. Avant qu'on parle vite fait, enfin qu'on parle avec plus longuement avec Sarah, je voulais juste rappeler quand même aux auditeurs, aux auditrices qu'on avait fait déjà une émission autour de la situation en Algérie le 24 mars. Donc là, l'idée c'était de joindre Sarah et de causer avec elle de son point de vue et des suites du mouvement qu'il y a actuellement en Algérie.
Alors Sarah, je vais te présenter pour les auditrices et auditeurs. Donc tu es Sarah Haïdar, tu es romancière et journaliste si je me trompe pas, c'est ça ?
Oui, exactement. Ouais.
Et ton dernier livre, c'est La morsure du coquelicot, qu'on peut trouver facilement dans les librairies françaises. Voilà, et ailleurs d'ailleurs. Mmh. Donc je vous conseille vivement la lecture d'ailleurs. C'est le moment promo. Ça va comme ça.
Super, merci.
Donc du coup, toi, tu es où en Algérie exactement ?
Je suis à Alger. Je travaille aussi à Alger, donc. J'assiste aux manifestations depuis le début. Enfin, je crois que j'en ai raté deux pour l'instant, pour des raisons de force majeure. Mais la plupart du temps, je suis de la partie et voilà.
Et donc on va juste rappeler quand même d'où sont nées ces manifestations. Donc c'était le fameux cinquième mandat qui a mis le feu aux poudres. Est-ce que tu es d'accord d'ailleurs avec cette analyse qu'on nous donne beaucoup, ou est-ce que tu penses qu'il y avait autre chose ?
Alors, en fait, le cinquième mandat, c'était juste la goutte qui a fait déborder le vase. C'est vrai que ils ont poussé un peu l'indécence et le mépris un peu trop loin, mais il y a beaucoup d'autres raisons structurelles qui ont construit ce mouvement, si j'ose dire, dans l'inconscient populaire. C'est-à-dire que on sentait depuis des années qu'il y a une colère, qu'il y a un sentiment d'injustice, qu'il y a un ras-le-bol général, mais qui hésitait à s'exprimer pour diverses raisons historiques surtout, et pour tous ces traumatismes que nous avons vécu par le passé, par rapport à la répression, mais aussi par rapport au basculement dans la violence. Voilà. Mais je crois que le 22 février, la veille, c'est-à-dire quelques jours avant, une semaine avant, il y avait des appels anonymes sur les réseaux sociaux à la marche. Et le 22 février, il y a une déferlante relativement inattendue dans les rues algériennes. Avant le 22, il y a eu une manif dans une ville d'Algérie qui s'appelle Khavata, qui est en Kabylie. Et c'était assez impressionnant parce que c'était quelques milliers de personnes avec des drapeaux noirs. Malheureusement, c'est pas des drapeaux anarchistes, mais c'était en signe de deuil, pour exprimer justement le rejet de ce cinquième mandat et à travers lui le rejet de tout un système qui gouverne depuis l'indépendance de l'Algérie. Voilà.
Et donc, du coup, en fait, est-ce que toi, en tant que qu'Algéroise, tu t'attendais en fait à une telle mobilisation, à une telle explosion de colère, en fait ?
En fait, les appels qui circulaient sur les réseaux sociaux invitaient à une marche à 14h à la fin de la prière hebdomadaire du vendredi. Mmh. Je savais qu'il y aurait beaucoup de personnes. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on sentait vraiment la colère monter dans la rue et chez les gens. Et je savais qu'il y aurait beaucoup de personnes. J'avais juste une petite appréhension par rapport à la récupération ou religieuse, ou du moins la couleur religieuse que ça risquait de prendre, vu que c'était la sortie des mosquées et tout. Et j'étais vraiment étonnée, agréablement surprise de voir que c'était des milliers de personnes, jeunes pour la plupart, qui marchaient sans aucun slogan religieux, aucune revendication à caractère religieux, mais bien au contraire de revendications politiques très claires et très déterminées par rapport au régime en place. Et oui, donc je m'attendais à ce qu'il y ait de la mobilisation, parce que le poids de l'oppression et le poids du mépris avait atteint des proportions déjà surhumaines. Déjà qu'on ait supporté jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà surhumain. Donc la révolte était prévisible.
Et donc, alors je vais peut-être sauter des étapes, mais donc on a quand même Bouteflika qui finalement a dit il a sûrement un peu été poussé, moi je pense quand même un peu à ce qu'ils disent bon moi c'est bon j'arrête, etc. Est-ce qu'il y a, comme moi en tout cas je le crains toujours, en tout cas quand il y a une force militaire derrière, etc., c'est que finalement, est-ce que derrière, maintenant que Bouteflika est parti, quel est le poids et quelle position, on va dire, adoptent justement ceux qui ont poussé un peu Bouteflika à la porte, quoi ? Est-ce qu'ils n'essayent pas justement de récupérer eux maintenant le pouvoir ?
Preuve en est que malgré le départ de Bouteflika, les manifestations continuent.
Oui.
Donc ça n'a pas mis fin à la contestation. Ça prouve que les Algériens sont assez lucides par rapport à la nature de ce système. Ce n'est pas l'histoire d'une personne, même si Bouteflika, durant les 20 dernières années, a réussi à monopoliser une grande partie du pouvoir et à comment dire, neutraliser ses ennemis potentiels, mais nous sommes conscients, la plupart des gens sont conscients que le problème est ailleurs. Ce n'est pas le problème d'une personne, mais d'un système qui est assez complexe, complexe, tentaculaire. Il y a un journaliste qui a appelé ça une cryptocratie, parce qu'on n'a jamais compris en fait vraiment comment ça fonctionne le système en Algérie. On sait seulement que ce sont des accointances et des alliances entre clans, entre intérêts, entre lobbies, et dans le mode de gouvernance autoritaire, autocratique, a fonctionné jusque-là. C'est-à-dire que l'histoire d'Algérie témoigne certes de révoltes ponctuelles, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à remettre en cause le système dans sa totalité. Donc le départ de Bouteflika, certes, c'est une petite victoire, mais comme tu as dû le constater, il y a un pouvoir militaire qui s'installe petit à petit, qui met pour l'instant les formes pseudo-constitutionnelles, parce que c'est une constitution qui a été violée à moult reprises, donc elle n'a aucune crédibilité, mais qui est justement utilisée par le système en place, parce qu'il est toujours en place, pour se maintenir. C'est-à-dire le prétexte, c'est on reste dans la constitution, on a répondu aux revendications du peuple et on a convaincu ou on a poussé le chef de l'État à la porte, mais le clan est toujours là, le système dans sa nature profonde est toujours là. Et les slogans ont changé juste après la démission de Bouteflika, ils ont évolué vers autre chose pour faire comprendre aux gouvernants que nous ne sommes pas dupes et que nous demandons le départ de tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement les personnes, mais tout ce groupe-là dominant qui gouverne l'Algérie d'une manière totalement obsolète et autoritaire et antidémocratique depuis 1962.
Et donc du coup, c'est quoi les revendications aujourd'hui portées? Alors, que tout le monde s'en aille, ça on a compris, un grand dégage et il est légitime, mais du coup tu sens comment l'après? C'est quoi l'envie des gens? Ou ton envie à toi? Alors, d'ailleurs peut-être, hein, au départ.
Pardon?
Ou peut-être ton envie à toi déjà, qu'est-ce que tu aimerais toi?
Écoute, les gens sont beaucoup plus déterminés, lucides et conscients par rapport à ce qu'ils ne veulent plus que par rapport à ce qu'ils veulent. Certes, il y a des débats un peu partout, surtout dans les universités. Parfois, il y a des agora comme ça dans les places des villes et tout pour discuter de l'après, de comment on la veut, cette deuxième république algérienne. Mais le consensus se fait plus sur ce qu'on ne veut plus. Maintenant, ce qui se dégage aujourd'hui sur les tribunes et dans les revendications populaires, c'est une constituante, c'est une assemblée constituante, c'est-à-dire à peu près un scénario à la tunisienne. En ce qui me concerne, moi, tu sais, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est-à-dire que...
Oui, je le sais, c'est pour ça que je posais la question.
J'ai l'impression que les Algériens ont été tellement traumatisés par un régime autoritaire et complètement, comment dire, gérontocratique, qu'ils semblent espérer un état de droit comme on peut le définir à l'occidental. C'est-à-dire que c'est un oxymore, selon moi en tout cas, c'est un oxymore déjà. Et de deux, les expériences occidentales, surtout l'expérience française que vous vivez en ce moment, nous renseignent qu'il n'y a pas d'état de droit quand il y a déjà un système de démocratie verticale, de démocratie représentative, où on donne l'illusion au peuple de choisir tous les 5 ans et après on fait ce qu'on veut. Et on lui vole ses droits, on lui confisque ses libertés au nom de, justement, de cette démocratie verticale, c'est-à-dire le choix des urnes. Ce n'est pas moi qui vais te le dire, mais...
si tu peux.
Élection piège à Caen, j'y crois encore. Du coup, moi, j'aurais espéré que... qu'il y ait que ce mouvement qui est complètement horizontal, qui justement revendique son rejet mais quasi épidermique de toutes les organisations politiques existantes, les partis politiques et même les syndicats, parce qu'ils se sont compromis à un moment donné avec le pouvoir, j'aurais espéré qu'ils puissent engendrer une prise de conscience par rapport à ce pouvoir réel qu'ont les populations de s'auto-organiser et de créer, peut-être inventer une nouvelle forme de démocratie. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, c'est très loin. C'est très loin pour l'instant.
Et au niveau du coup de la répression, parce que nous on a l'impression, vu de France, que ça s'est accentué, non, après le départ de Bouteflika, la répression. Alors, contre les manifestations.
Oui. Vous avez cette impression parce que dernièrement, il y a 2 semaines, il y a eu une répression au niveau de la rue Didouche-Molade. C'est-à-dire que c'est le parcours principal, l'un des parcours principaux de la manif. Sauf que les violences policières existent depuis le début. Mmh. Elle ciblait une catégorie sociale précise, c'est-à-dire ce sont des jeunes, pour la plupart désœuvrés, issus des quartiers populaires, qui mettaient un point d'honneur chaque vendredi, c'est-à-dire là où la majorité rentrait à la maison après avoir festoyé et rigolé et fait une manif dans la bonne humeur. Eux, quelques centaines, mettaient un point d'honneur à atteindre le palais présidentiel, parce que c'est un symbole politique et une manif politique a une cible. Donc pour nous, pour eux et pour nous, c'était le palais présidentiel. Sauf que ce sont quelques centaines de jeunes, je le répète, des quartiers défavorisés, donc il n'y avait plus de femmes, il n'y avait plus de familles. Ils étaient seuls à monter et du coup ils se recevaient les gaz lacrymaux, les balles à blanc, les balles en caoutchouc, le passage à tabac. Sauf que il y avait une espèce d'omerta sur ces violences policières. Il fallait pas en parler parce que il semble qu'il y ait eu un accord tacite pour que nous soyons copains avec les flics et que ce sont nos frères et que ce sont des enfants du peuple comme nous. Donc on doit les avoir dans notre camp. Et pour ne pas les provoquer, il faut pas monter au palais présidentiel. Il faut juste rester en bas, en ville. Faire une manif très gentille, très sympa, et rentrer à la maison. Et du coup, les discours qui dominaient à l'époque, c'était criminaliser ces jeunes-là, même s'ils étaient blessés, même s'ils subissaient vraiment des violences policières féroces, le temps général était de les criminaliser, de leur dire, voilà, vous n'aviez qu'à pas monter au palais présidentiel, vous n'aviez qu'à pas provoquer les flics. Précision, ces jeunes-là, quand la répression commence, ils ripostaient. Mais ils ripostaient à armes inégales, bien sûr, c'est-à-dire avec des cailloux.
On imagine bien.
Devant eux. Voilà. Récemment, le 19 avril, il y a un jeune qui est mort, c'est-à-dire il avait 23 ans, il est issu d'un quartier populaire de la banlieue d'Alger. Il est mort après avoir reçu des coups de matraque sur la tête. Il est mort une semaine après l'incident, c'est-à-dire il est resté dans le coma une semaine et il est décédé. Pour l'instant, il n'y a aucune poursuite, il n'y a aucune enquête qui est annoncée. Et c'était suite justement à la répression qu'il y a eu en bas. C'est-à-dire ce n'était plus une répression ciblée contre des jeunes dont l'État savait que personne n'allait les défendre ou très peu. C'était une répression contre tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des camions de police qui ont gazé des manifestants, les manifestants gentils, tu vois un peu.
C'est-à-dire, ceux qui n'étaient pas habitués à avoir la répression.
Femmes et hommes, il y avait même des enfants, et riches et pauvres, classe moyenne. Du coup, les gens... Voilà, ils ont découvert, comme par magie, les violences policières. Sauf que, je le répète, les violences policières existent déjà depuis très longtemps, depuis des décennies, et elles existent depuis le début du mouvement. Voilà.
Oui, de toute façon, enfin, est-ce qu'un État, quel qu'il soit, finalement, peut se passer de violences policières? Enfin, je trouve que le parallèle entre ce qui se passe en Algérie, ce qu'on peut voir en France, etc., enfin, c'est la même logique un peu partout. C'est-à-dire que les pauvres, de toute façon, on peut les bastonner, on peut les tuer. ils vont pas beaucoup moucheter, quoi. Enfin, et très peu de gens vont prendre leur défense, quoi. Donc c'est assez. Enfin, oui, c'est.
Symptomatique.
Ouais. Exactement. C'est un réflexe classiste. Et on se trouve tous les arguments pseudo-moraux pour justifier cette lâcheté, en disant que ce sont eux les voyous. Ils veulent à tout prix la confrontation avec les flics. Ils n'hésitent pas à leur balancer des cailloux à la gueule et tout. Mais bien sûr qu'on ne peut pas ressentir ce que peut ressentir un jeune de cette classe sociale et de ces milieux-là quand on n'a pas subi ce qu'ils ont subi. Le rapport qu'ils ont avec la police est totalement différent. C'est-à-dire, voilà, bien avant le mouvement, chez nous, un jeune de 20 ans, 23 ans, qui est dans un quartier populaire et qui est vraiment identifié au faciès, ça, et au code vestimentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment habillé d'une manière, rudimentaire, voilà, vraiment, c'est au faciès, et ben, il est tout le temps harcelé par les flics, c'est-à-dire pour n'importe quelle raison, il est embarqué, il est fouillé, il est humilié, et c'est normal qu'il y a cette colère qu'il garde peut-être en eux, tapis. Et quand il y a un mouvement de cette ampleur, c'est normal que cette colère sorte. Mais je tiens à préciser que nous marchons avec ces jeunes-là tous les vendredis, à la différence des autres, eux, il me semble qu'ils sont beaucoup plus politisés que ceux qui se taquent de leur diplôme ou de leur lecture ou je ne sais pas quoi. Eux, ils veulent monter au palais présidentiel parce que pour eux, une manif sensible, ça n'a pas de sens. Et c'est logique, voilà.
En fait, ils ont la politique de la vie, comme on dit, quoi.
C'est-à-dire que c'est le... Exactement. Ils ont appris la politique grâce à la répression que eux subissaient au quotidien, justement, et à l'oppression que eux subissaient au quotidien, contrairement à d'autres.
Et moi, j'avais une question à te poser, mais alors qui est un peu annexe, enfin qui est dans le même ordre, mais un peu. Tu as signé un manifeste qui a été diffusé en France comme étant un manifeste dit féministe, où donc c'est nous réaffirmons notre détermination à changer le système en place. Pourquoi tu as ressenti le besoin de signer ce manifeste? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est oublié dans cette révolution ou qu'il faudrait mettre plus en avant?
Écoute, ça c'est une question sociétale, c'est-à-dire qui persiste depuis des décennies. Le combat féministe n'est pas né avec le mouvement de février. Il existe depuis au moins l'indépendance. Sauf que à chaque fois que les femmes voulaient parler de leurs droits, on leur a sorti le même argument que nous a sorti cette fois d'ailleurs, c'est pas le moment, c'est-à-dire attendez qu'on règle les problèmes politiques, qu'on dégage les tyrans, qu'on ait l'indépendance et ensuite qu'on construise le pays, qu'on construise la démocratie, et ensuite ça c'est facile, on va le régler facilement. Il se trouve que 60 ans après l'indépendance, rien ne s'est réglé. Pire encore, en 1984, un code de la famille a été voté qui fait de la femme une mineure à vie, une sous-citoyenne, quoi, une citoyenne de seconde zone. C'est un peu exagéré de faire cette comparaison, mais je l'ai faite, à mes risques et périls. C'est un statut particulier, en fait. C'est un statut particulier pour une partie de la société, qui est la moitié de la société, en fait. On représente la moitié de la société. Et je crois qu'il n'y a que les régimes fascistes qui ont instauré ce genre de statut particulier pour une partie de la population. Donc voilà, c'est quelque chose d'inacceptable, d'immoral, mais qui a perduré dans une complicité un peu bâtarde entre l'État et une grande partie de la société, c'est-à-dire les conservateurs, les islamistes, ça les arrangeait que la femme soit la cible prioritaire de ce penchant religieux, bigot et conservateur de la société algérienne. Et du coup, je l'ai signé, je l'ai co-rédigé avec un groupe de militantes, et je l'ai signé par conviction, parce que, j'écris depuis des années sur la condition de la femme, je la vis, et je trouve qu'il est plus que normal de revendiquer l'égalité citoyenne. C'est-à-dire qu'on est en train de réclamer une démocratie, qu'on est en train de réclamer la fin d'un système injuste. Il est totalement illogique de conserver préserver l'un des héritages les plus abominables de ce système, qui est l'inégalité citoyenne et le code de la famille.
Mais les femmes, en tout cas la situation des femmes est toujours la variable d'ajustement de beaucoup de mouvements finalement, où on dirait toujours que c'est pour plus tard, il faut attendre, mais en fait une société égalitaire ça se construit dès le départ en fait. Enfin, on va pas attendre de virer le pouvoir pour se dire tiens il faut qu'on soit dans un rapport égalitaire les uns avec les autres quoi.
Exactement, exactement. Et ça dénote d'une certaine hypocrisie au sein même de la société algérienne. C'est-à-dire le discours qu'on nous sert, c'est vous êtes libre, vous allez travailler, vous conduisez des voitures, vous vous habillez comme vous voulez, que demander de plus ?
C'est ça.
C'est-à-dire vous n'êtes pas comme les Saoudiennes ou les Iraniennes. Il faut pas trop pleurnicher, quoi. Aux yeux de la loi, non, on est des sous-citoyennes. C'est-à-dire que pour un mariage, la femme a besoin d'un tuteur. Il y a quelques temps, j'ai été ouvrir un compte épargne à mon fils. On m'a dit que la signature du père est la seule acceptée. Ma signature n'est pas acceptée, t'imagines un peu. C'est-à-dire que, voilà, aux yeux de la loi, aux yeux de l'État, et puis aussi, il ne faut pas se mentir, même au sein de la société, c'est-à-dire que même nos droits, quelques droits arrachés à l'État, sont continuellement remis en cause par la société. C'est très difficile qu'une femme vive seule, c'est-à-dire que même si elle vit seule, qu'elle puisse trouver quelqu'un pour lui louer, alors qu'il sait qu'elle va vivre seule, elle va être sous la tutelle de tout le voisinage, du propriétaire, qui va surveiller ses entrées, ses allées et venues, qui va surveiller, qui va aller la voir, qui va la visiter, de quelle manière elle vit, de quelle manière elle s'habille. Enfin, tout ça, c'est des violences structurelles qu'on subit tous les jours. Et je suis consciente que de ce changement-là par rapport au regard porté sur la femme ne viendra pas du jour au lendemain. La révolution ne nous rend pas meilleurs du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, mais déjà qui commence par l'affirmation décomplexée et vraiment assumée de la nécessité d'une égalité citoyenne.
Et justement, comment tu la sens, la société algérienne aujourd'hui, dans cette ébullition ? Est-ce que tu penses que ça va vers un mieux pour toutes ces questions-là ou pas ?
Écoute, moi je pense qu'on se sent déjà mieux depuis le 22 février, parce qu'il y a une espèce de reconquête de l'estime de soi. J'ai l'impression qu'on s'aime un peu. Depuis le 22 février, alors qu'avant on se détestait beaucoup et on se détestait cordialement ou violemment, hein, ça dépend. Mais je crois que la révolution, même si elle débouche sur des demi-solutions ou bien de fausses solutions, c'est-à-dire état de droit type occidental, elle rend les gens meilleurs et elle ouvre leurs esprits vers plus de dialogue, vers plus de de possibilités.
Oui, de perspectives en fait.
Pardon ?
De perspectives en fait.
Plus de perspectives, voilà. Parce que l'oppression, elle te rend, c'est-à-dire, elle te prive tellement de ta dignité, de ton amour propre, que tu deviens toi-même l'oppresseur de ton concitoyen ou de ton semblable. Et voilà, c'est une espèce de jeu malsain, d'injustice reproduite à plus petite échelle et ainsi de suite. D'où, voilà, justement, la condition de la femme, pourquoi la condition de la femme a rangé l'État. Comme disait une copine militante féministe, Amal Hadjadj, c'est-à-dire l'État opprime 50% de la société, mais pour que ces 50% ne se soulèvent pas, il lui donne les 50% autres opprimés. Voilà. C'est-à-dire que moi, je te casse la gueule, mais je te permets de casser la gueule à ta femme pour que tu te sentes mieux, tu vois. Et maintenant, je crois que les gens, l'expérience de la rue, le fait d'occuper un espace public qui était interdit, le fait de se voir comment dire, dans un miroir politique, si j'ose dire, et de voir l'autre, découvrir l'autre, qu'il soit homme ou femme, de dialoguer avec lui, de découvrir que les différences ne sont pas un danger, au contraire, que c'est une richesse, c'est tout, je suis en train de dire des clichés, mais bon, ça rend les gens meilleurs et ça leur permet de réfléchir autrement.
Ouais, tu sais, les clichés ont du bon, hein, des fois, quand même, hein. Dans ce cadre-là, j'entends, hein, pas dans le reste.
Ouais.
Ben, écoute, merci à toi en tout cas, parce que c'était important pour nous d'avoir une voix un peu différente que de celle des canaux officiels qu'on a, hein, qu'on peut avoir en France par rapport à ce qui se passe en Algérie. Et merci pour le retour, parce qu'il était, je pense, très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un dernier mot, une envie de lancer quelque chose avant qu'on se quitte?
Ah oui.
Eh ben vas-y.
Bah, écoute, c'est évident, je veux exprimer tout mon soutien au mouvement de protestation en France, aux Gilets jaunes, et spéciale dédicace au Black Bloc, et je vous souhaite bonne chance pour le 1er mai.
Eh ben, on souhaite tous bonne chance pour le 1er mai, alors. Eh ben, en tout cas, merci. On va faire une petite coupure musicale. On te reprend au téléphone dans 2 secondes, mais en off. Et nous, on revient après ça, amis auditrices et auditeurs. Merci Sarah.
Merci encore à toi. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci. Bisous. Au revoir.
Ciao.
Paris.
Alors là, c'était bien. Bon, t'es de retour dans la causerie sur Radio Canu au 102.2. Alors encore un grand merci à Sarah Edard de nous avoir accordé cette interview qui était juste avant. Puis si vous étiez pas là, bah vous aviez qu'à être là. Vous écouterez le podcast sur le blog de l'émission. Sinon là, vous voyez, si vous prenez la chanteuse que vous connaissez de Sexy Sushi, Rebecca Warrior, et que vous lui additionnez Vitalik, un gars que vous connaissez aussi, bah ça donne Compromat. Et Compromat, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et donc c'était Possession, le titre, voilà. Nous ne valons rien, donc nous possédons tout.
C'est ça.
À méditer.
Eh ben, on est de retour, mais juste pour une brève, une courte oui. brève. Ben, c'est en plus Sarah d'ailleurs voilà. a aussi appelé à ça, mais c'était.
C'est le 1er mai. Eh oui, 1er mai, mercredi. Donc il y a une manif qui part à 10h30 à Lyon de la place Jean Massé. Donc voilà, venez nombreuses et nombreux. Pour ceux qui pensent que ça sert à rien d'être dans la rue, ben c'est peut-être, ça vaut peut-être le coup d'œil de regarder de l'autre côté de la Méditerranée ce qui se passe en Algérie, pour voir que le nombre, ben, ça fait quand même quelque chose, par exemple, vous voyez. Et puis voilà, et puis après, ben si vous voulez, il y a le fameux punch musical Mangation de Radio Canu sur la place Satonnet après la manif. Voilà,
c'est ça.
Comme chaque année, le premier.
Vous aurez un cortège qui partira donc de la place Bellecour, normalement,
ouais.
et qui montera jusqu'à la place Satonnet,
oui.
au pied, enfin, à quelques pas de Radio Canu.
Il y a aussi l'intersyndicale qui fait un truc place Bellecour, donc vous choisissez où vous voulez aller, hein, c'est votre liberté.
C'est ça, et puis on n'est pas obligé d'opposer les modes de fonctionnement.
Non, tout à fait.
On peut donc, se voilà. dire qu'on a bien le droit de choisir ce que l'on veut faire, n'est-ce pas ?
Et liberté ben,
individuelle, tout ça, un truc sympa. Eh bien, sur ce, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain.
Oui, 22h, dis donc.
C'est ça, 22h, à l'antenne de Radio Canu, ouais. toujours, au 102.2, sur la bande FM.
Et moi, je le fais pas souvent, mais je vais vous le demander. Vous savez, on a un podcast, on a un blog, tout ça. Il y a des réseaux sociaux, il y a des mails. Bah, faites tourner notre émission, parce que ça nous aide à nous faire connaître. Mais surtout, c'est pas tellement pour un truc égotique, c'est qu'on essaye d'y mettre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et ça permet de faire entendre à d'autres des voix qu'ils n'entendent pas ailleurs. Donc voilà, profitez-en.
Créer des ponts.
Exactement.
Plein de ponts. Plein, voilà. plein. Eh bien, et sur, allez, vite faire un petit coup d'autopromo. Et puis, si tu veux des autocollants, des stickers de la causerie, n'hésite pas aussi à envoyer un petit mail. On s'arrangera pour vous les faire parvenir.
La causerie canure@gmail.com.
Mais quel beau duo!
Si vous nous voyez, vous voyez la tête qu'on a, je pense que vous diriez pas ça.
Une équipe de vainqueurs. Eh bien, on va se quitter avec un dernier titre
oui.
qui est un titre de Richard Gottener.
Je veux pas aller au paradis.
Pas lui non plus, tiens.
C'est marrant.
Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Bon ouais. courage à toutes et à tous. À plus.
Et au 1er mai dans la rue.
Yes, bisous. Ciao.
Personne n'est peu trahi, je n'ai volé que des amis. J'ai peut-être été un peu bandit, mais il y a longtemps, j'étais petit. De vieilles ardoises mal effacées, quelques casseroles, mais pas de casier. Je suis limite immaculé, le paradis me pend au nez. Je veux pas y aller au paradis. Je ne m'y connais pas d'amis. Quand je jouerai la fille de l'air, je veux qu'on me flanque en enfer. L'enfer, là je suis sûr au moins d'y retrouver tous mes copains. Éternel Alléluia, chanté par des anges béats, des vierges blanches comme des oies. Qu'aurais-je fait pour mériter ça? Y'a pas un chat, c'est le désert. En permanence t'as la lumière. Au paradis, à part ma mère, je connais personne. Y aller au paradis, si l'on m'y colle, je m'en enfuis. Quand je jouerai la fille de l'air.